Chapitre 15. C'est ainsi qu'elles franchirent le secteur des morts-vivants. Le paysage était à peu près le même, un univers de canalisations, de machines, de réservoirs, entre lesquels fleurissaient des maisons de bois et des jardins zen. Peggy supposa que les concepteurs du vaisseau avaient tenté, par cet artifice, d'humaniser la station en y créant des zones de repos anti-stress. Elles furent reçues par un certain Nininyama, dont le nom signifiait « montagne double ». C'était un homme maigre, de petite taille, aux cheveux coupés ras, sanglé dans un costume noir de sarariman, autrement dit de cadre supérieur. Il s'exprimait d'un ton autoritaire, ponctuant ses discours de gestes expressifs appris dans ses écoles de maintien qui enseignent aux Nippons l'art de communiquer avec les gaijins. Le travail qui vous attend ici n'est pas de tout repos, siffla-t-il. Je préfère vous en avertir. Lors de votre précédente affectation, vous étiez dans un hôpital. Ici, vous serez dans une morgue. Une morgue comme il n'en existe nulle part ailleurs. Une morgue vivante. J'espère que vous avez les nerfs assez solides, car je n'aurai pas le temps d'écouter vos jérémiades. De quoi s'agit-il ? Coupa Peggy que la jactance du bonhomme agaçait. Nininyama se raidit, offusqué qu'on osa interrompre son discours. Il faut que vous compreniez une bonne fois pour toutes que les lois naturelles de la station ne sont pas celles du dehors, grinça-t-il. Nous subissons les effets des flux magnétiques émis par les machines. Je vous épargne les détails techniques, vous n'y comprendriez rien. Sachez que les scientifiques essaient de mettre au point un système qui permettra aux humains de survivre aux maladies, à l'usure corporelle et aux blessures graves des longues traversées spatiales. Quand je dis « longues traversées », j'entends des voyages de 30, 40 années, voire davantage. Il est donc nécessaire que nos cosmonautes développent une résistance extrême aux agressions physiques. La plus sournoise d'entre elles étant le vieillissement. Imaginez un pilote qui s'envolerait à 30 ans et qui, au terme de son voyage, débarquerait à l'état de vieillard Kakoshim sur la planète qu'il avait pour mission d'explorer. Ce serait un non-sens, n'est-ce pas ? Les jeunes femmes hochèrent la tête. Leur mentor parut satisfait de cette marque de docilité. Voilà pourquoi il a fallu générer chez ces gens des capacités de résistance hors du commun, poursuivit-il en baissant le ton. Mais cela n'a pas été sans effet secondaire. Il rit très fort pour manifester son embarras. Notre tâche est de nous occuper justement des malheureux souffrant de ces effets secondaires et de leur faciliter les choses autant que possible. Il faut beaucoup de tact et un solide contrôle de ses nerfs. Sachez que je ne tolérerai aucune crise d'hystérie. Et si vous nous expliquiez en quoi consistent ces fameux effets, s'impatienta Peggy. Nininyama se raidit. Nos pensionnaires ont tous une chose en commun, murmura-t-il enfin. Ils se sont suicidés. Vous voulez dire qu'ils se sont ratés et qu'ils sont ici en convalescence, insista Peggy. Non, répliqua Nininyama avec une satisfaction évidente. Ils ont réussi. Ils sont morts. Tout du moins, ils le seront bientôt. On ne peut plus rien faire pour eux. Leur état est désespéré. Ils agonisent ? On peut dire ça, oui. Ils agonisent depuis des mois, certains depuis un an ou deux. Cela tient au traitement d'endurcissement auquel on les a soumis quand ils étaient pilotes. Ils meurent très, très lentement. Dans le monde d'où vous venez, ils auraient succombé en une fraction de seconde. Chez nous, la chose se déroule au ralenti. Elle finira par arriver à son terme, bien sûr. Mais nul ne peut prédire quand. Pour vous citer un exemple, j'ai là dans le bungalow numéro 3 un certain capitaine Vogue qui s'est tiré une balle de 38 dans la bouche. Son cerveau a été détruit, sa calotte crânienne a sauté, si bien qu'il lui manque aujourd'hui la moitié de la tête. La médecine est impuissante à réparer de tels dégâts. Pourtant, il est ici depuis un an. Tous les pensionnaires dont vous aurez à vous occuper sont dans le même état. Pourquoi se sont-ils suicidés sans qui Peggy ? Nininyama haussa les épaules. Dépression, claustrophobie, que sais-je ? Soupira-t-il. Il ne m'appartient pas d'émettre un quelconque diagnostic, ce n'est pas ma partie. Je suis là pour gérer cette morgue et permettre à ses occupants de passer de l'autre côté dans les meilleures conditions. En quoi consistera notre travail ? Demanda Poppy qui jusque-là était demeurée silencieuse. Vous ferez chaque jour leurs toilettes de manière à les tenir propres, expliqua le petit homme. Vous leur tiendrez également compagnie. Certains aiment bavarder, prêtez-vous à leurs caprices, même s'ils ont tendance à radoter. D'autres vous prieront de leur faire la lecture, ne refusez jamais. Gardez bien à l'esprit que ces hommes, ces femmes, ont été des héros de la conquête spatiale et que nous leur devons des égards. Soyez aimables, prévenantes, attentionnées. Au premier abord, vous serez horrifiés. Puis vous vous habituerez et pour finir, vous vous attacherez à eux, au point d'être triste quand l'un ou l'autre atteindra enfin au dernier rivage. Il se redressa en souriant. « À présent, conclut-il, je vais vous montrer vos appartements. » Les jeunes femmes furent logées dans une maison analogue à celle qu'elles occupaient lors de leur précédente affectation. Au lieu de bocaux de médicaments, les étagères croulaient cette fois sous les pansements et les produits de maquillage. Nos pensionnaires aiment rester présentables, expliqua Nini Miyama. Ils ont leur coquetterie. Vous serez souvent amenés à les farder. Les produits que vous voyez là sont ceux employés par les thanatopracteurs. On les a conçus pour résister à la putréfaction. Certaines pâtes plastifiées permettent de boucher les cavités inesthétiques, voire de remodeler des parties manquantes. Au début, vous tâtonnerez, puis vous finirez par attraper le coup de main. Nous avons tous joué avec de la pâte à modeler quand nous étions enfants, n'est-ce pas ? Sur ce, il prit congé en esquissant une dernière courbette. Peggy et sa compagne passèrent le reste de la journée à étudier les manuels d'auto-formation rapide entassés au long des rayonnages. Désuicidé, soupira Poppy au bout d'un moment. Tu crois que nous allons finir comme eux ? J'espère bien que non, grogna Peggy. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y en ait autant. À croire qu'on se trouve en face d'une véritable épidémie. Aux alentours de 20 heures, un employé se présenta au seuil de la maison pour leur remettre des bento. Ces sandwichs composés de riz, de légumes, de vinaigre, de poissons crus et de prunes salées. C'est déjà ça, fit Poppy. Au moins, on n'aura pas à faire la bouffe. Peggy dormit peu. Elle avait de plus en plus l'impression que les événements lui échappaient. De toute évidence, le vaisseau était férocement cloisonné, et elle voyait mal comment elle pourrait réussir à s'introduire dans le sein des saints, là où s'élaboraient les secrets convoités par le Destroy. Si on continuait à la rétrograder, elle finirait dans une soute au recyclage des ordures. Evgeny n'avait pas prévu cela. Une sirène la réveilla vers 6 heures du matin alors qu'elle s'assoupissait enfin. Elle dut se résoudre à se lever. Les paupières gonflées, elle enfila l'une des tenues d'infirmière suspendues dans le placard et assujettit sur son épaule la besace contenant les produits de maquillage énumérés dans le manuel. Poppy la rejoignit au seuil de la maison. « Ok, souffla Piggy. Toi, tu prends le côté gauche de la rue, moi le droit. » Demain, on fera le contraire. Ça te va ? Poppy hocha la tête et s'éloigna calmement. Ce sang-froid étonna Peggy, qui, elle, se sentait nerveuse. Rassemblant son courage, elle marcha vers la première des maisonnettes. Elle se déchaussa au moment d'en franchir le seuil et tout sauta pour signaler son arrivée. L'habitation était plongée dans la pénombre, mais la jeune femme n'eut aucun mal à identifier l'odeur flottant sur les lieux. Cela empestait le sang et le cadavre. Avisant un brûle-parfum disposé sur une sellette, elle s'empressa de l'allumer et d'y jeter de l'encens. Quand elle poussa les panneaux coulissants, l'odeur devint plus forte. Au centre de la salle, un homme vêtu d'un yukata marron était allongé sur une natte en paille de riz. Un invraisemblable capharnaüm l'entourait, constitué de CD, de livres, de magazines, de photographies éparses. Un écran plasma géant, pour l'heure éteint, occupait l'un des angles de la pièce. Peggy s'agenouilla près de l'inconnu et se présenta. « Je suis la nouvelle infirmière, » crut-elle bon d'expliquer. L'homme ricana. « Cela veut dire que la précédente est devenue folle ou qu'elle s'est suicidée, » lâcha-t-il d'une voix étouffée. C'est ce qui vous attend, ma jolie, si vous restez trop longtemps parmi nous. » Il s'exprimait avec lenteur, telle une bande magnétique défilant en sous-vitesse. Son accent texan n'arrangeait rien. À présent qu'elle le voyait mieux, Peggy réalisait que le corps du moribond présentait des difformités semblables à celles qu'elle avait observées sur Gordon Vaughan, le nain qui avait tenté de la dissuader d'emprunter la même voie qu'Ornella Jones. Il était bizarrement compact, tassé, comme s'il avait séjourné dans une presse hydraulique. Devinant qu'elle hésitait à le toucher, l'homme murmura « Vous pouvez poser les mains sur moi sans danger. Ma densité n'a pas été affectée, je me suis flinguée avant. Je ne supportais plus d'avoir été transformée en gargouille. Mais certains de mes copains qui sont allés jusqu'au bout, eux, sont devenus de vrais trous noirs ambulants, aspirant toute la matière vivante passant à leur portée. « Je sais, » fit Peggy en dénouant la ceinture du yukata. « J'ai rencontré l'un d'eux. » Le visage de l'agonisant avait subi lui aussi la même espèce de compression, ce qui lui conférait une allure simiesque des plus déplaisantes. « Je suis né à Austin. Je m'appelle John Adams Flaherty, » reprit-il. « Capitaine Flaherty, anciennement pilote de chasse pour l'US Air Force, guerre du Golfe et tout le toutim. Je n'ai pas toujours eu la gueule que vous me voyez aujourd'hui. » Peggy écarta les pans du kimono. En dessous, Flaherty était nu, le corps changé en barrique, la poitrine enveloppée d'un bandage sanglant. « Il y a 13 mois que je me suis tiré une balle en plein cœur, » expliqua-t-il. « Et ça saigne encore. Allez y comprendre quelque chose. A-t-on essayé de vous sauver sans qui la jeune femme ?»« Non, » grommela le pilote. « Le myocarde est foutu, explosé. Un homme normal serait mort sur le coup. Moi, c'est différent. » à cause du traitement d'endurcissement réservé aux pilotes intersidéraux. C'était censé me permettre de survivre aux aléas du voyage, de vieillir au ralenti. Ça ne me permet en fait que de mourir lentement. Vous parlez d'une aubaine. « Excusez-moi de vous poser une telle question, » murmura Peggy, « mais je suis néophyte en ce domaine. Pouvez-vous me dire comment cela se manifeste? Je ne suis pas certaine de comprendre le phénomène. » Tout en parlant, elle avait découpé le bandage souillé. Un trou rond, net, perçait la poitrine de l'homme à la hauteur du cœur. La détonation avait inséré sous la peau des grains de poudre brûlée qui dessinaient une auréole aux allures de tatouage. La consistance de la chair était anormale, trop molle, travaillée par une liquéfaction sournoise. L'épiderme, lui, présentait des efflorescences bleuâtres. « C'est simple, » soupira Flaherty. Dès que mon cœur a explosé sous l'impact de la balle, je me suis écroulé, mes jambes ne me portaient plus. Par la suite, je n'ai jamais pu réussir à me remettre debout. Les 6 premiers mois, je pouvais encore m'asseoir. C'est fini maintenant. Je commence à perdre l'usage de mes bras. J'ai de plus en plus de mal à tenir un livre, mais j'ai encore ma tête. Il paraît que tout se déconnecte peu à peu au fil du temps. Un jour, on ne peut plus parler. 3 mois plus tard, on devient aveugle. Le plus terrible, c'est qu'on peut rester ainsi pendant des mois à attendre la délivrance. Il y a quelque part dans l'une des baraques de la rue un type dans cet état, un vrai gisant, qui attend de s'éteindre depuis 2 ans. Peggy s'appliqua à poser un pansement propre. La détresse de Flaherty devenait contagieuse. Elle essaya de recouvrer son sang-froid. « Vous ne mangez pas ?» s'enquit-elle d'un ton qu'elle espérait professionnel. « Non, je ne bois pas non plus, » soupira le moribond. « C'est tout bénéfice pour vous. Nous sommes des morts très propres, très convenables. En revanche, je serais content si vous pouviez me faire de la lecture. Je m'emmerde un max. » « Volontiers, » affirma Peggy. « Dites-moi ce que vous voulez entendre. » Il lisait des romans de guerre, des mémoires de généraux, des récits de bataille. Une littérature dont il avait pris goût à West Point. La jeune femme passa une demi-heure à annonner un chapitre d'une biographie visant à réhabiliter le général Custer. Soudain, il la pria d'arrêter. « Je n'ai pas toujours été comme ça, » répéta-t-il. Dans la boîte à chaussures jaunes, là-bas, vous trouverez des photos de moi quand j'étais encore humain. Regardez-les, ça me fera plaisir. » Pillé obtempéra. Le carton contenait effectivement des clichés représentant le capitaine en tenue de footballeur, de surfeur. Sur chacun d'eux, il affichait un sourire éclatant et une musculature avantageuse. Il ne mentait pas, il avait été bel homme. Une sorte de Tom Cruise à l'époque de Risky Business. Des légions de filles avaient dû craquer pour lui. Il n'en restait plus grand-chose. « Je n'aurais jamais dû accepter de venir ici, » murmura-t-il avec lassitude. Je ne me rendais pas bien compte de ce qui m'attendait. L'entraînement des pilotes de chasse est très dur. Je pensais être capable de surmonter ce genre d'épreuve. Mais à aucun moment je n'ai imaginé qu'on ferait de nous des monstres. C'est ça qui m'a foutu la déprime. Savoir que plus jamais une fille ne voudrait de moi. Nous avons essuyé les plâtres, les copains et moi. Il paraît que dans quelques années, les scientifiques arriveront au même résultat sans déformation physique. Mais je ne serai plus là pour le voir. Nous leur avons servi de cobaye. Il se tut. Peggy fit le ménage dans la salle avant de prendre congé. Elle quitta le capitaine plutôt déprimé. Au moment d'entamer son parcours, Yumiko réalisa qu'elle avait fait une nouvelle erreur en faisant preuve d'un trop grand sang-froid. Elle aurait dû jouer l'inquiétude, voire la panique. La fille qu'elle était censée être, cette Poppy Warlow, ne se serait pas comportée comme elle venait de le faire. C'était une faute grave que Peggy Mitchum ne manquerait pas de remarquer. Décidément, elle cumulait les faux pas. À ce rythme-là, l'Américaine ne tarderait plus à la démasquer. Rage et désarroi se mêlaient dans son esprit. Elle éprouvait une grande angoisse à se découvrir soudain vulnérable, imparfaite. Elle n'avait plus rien de commun avec la machine bien rodée qu'elle était jadis, et cette débâcle irait en s'aggravant, c'était inévitable. Peut-être, une fois en possession du secret de longévité des cosmonautes, aurait-elle intérêt à se retirer des affaires et à rayer le destroy de sa mémoire? Cette éventualité qu'elle avait jusque-là refusé d'envisager commençait à lui trotter dans la tête. Dans peu de temps, elle serait bonne à remiser au rayon des armes défectueuses. Était-il sage dans ces conditions de continuer à prendre des risques? Mal à l'aise, elle franchit le seuil de la première maisonnette pour jouer son rôle de toiletteuse mortuaire. Son patient était un immunobiologiste nippon qui avait choisi de se suicider en faisant ses poucous. Très affaibli, il survivait sur un futon en composant des yaku qu'il s'empressa de réciter à Yumiko. Une fois encore, la jeune femme faillit se trahir en lui répondant dans sa langue natale. Elle se rappela in extremis que Poppy Warlow n'entendait rien au japonais. « Je vais vous les traduire, » s'excusa le moribond. « Mais en américain, ça perd beaucoup de sa beauté. » Il avait raison. L'anglo-saxon ne permettait pas de rendre les mille subtilités du poème initial. Pendant qu'il improvisait une traduction approximative, Yumiko entreprit de faire sa toilette. Il s'était ouvert l'abdomen dans la plus pure tradition samouraï, et dès qu'elle défit le bandage souillé, la jeune femme vit les intestins dégringoler hors de la plaie béante. Elle dut les empoigner à pleine paume pour les remettre en place, ce qui s'avéra compliqué. « C'est comme essayer de bourrer une valise trop petite, » se dit-elle avec agacement. « Ne vous cassez pas la tête, » déclara l'homme. « Entassez ça comme vous pouvez. De toute manière, ça ne m'est plus d'aucune utilité. Je suis désolée de vous imposer une telle besogne. » Soumis ma scène. « Dozo, ce n'est rien, » répondit machinalement Yumiko. « Arigato gozaimasu, » fit l'homme. 30 yaku plus tard, Yumiko quitta la maison pour visiter son deuxième client. Il s'agissait cette fois d'un chimiste né à Boston qui avait mis fin à ses jours en mordant à pleines dents une capsule de nitroglycérine. Méthode originale, s'il en est. La déflagration lui avait arraché le maxillaire, la moitié gauche du visage, la langue et le nez. Il était mort par hémorragie massive il y avait de cela 8 mois. Depuis son décès, il attendait patiemment de passer de l'autre côté en s'initiant à l'art de l'arrangement floral. Comme il ne pouvait plus parler, il s'exprimait par écrit au moyen d'un petit carnet qu'il couvrait de notes rapides. C'est ainsi qu'il expliqua à Yumiko qu'il ne supportait pas la vision de son visage mutilé. « J'ai essayé de porter un masque, gribouilla-t-il, mais c'était encore pire. J'avais tout le temps envie de le soulever pour voir ce qui se cachait dessous. » En fait, il attendait de Yumiko qu'elle se livre à une reconstruction faciale au moyen de cette pâte résineuse utilisée par les thanatopracteurs lorsqu'ils doivent rendre présentable un cadavre en très mauvais état. Il s'allongea, les paupières closes, les mains jointes sur la poitrine, s'abandonnant aux soins prodigués par la jeune femme comme s'il se trouvait dans un institut de beauté. C'était assez curieux. Yumiko fit de son mieux pour combler les cavités et modeler une mâchoire. Le nez lui donna du fil à retordre. Son client, le trouvant tantôt trop long ou trop court, la contraignit à le refaire 3 fois de suite. Quand elle prit congé, elle était à bout de nerfs. C'était un travail sans surprise. D'une maison à l'autre, le programme ne changeait guère. Les jeunes femmes ne tardèrent pas à s'en rendre compte. Les modalités du suicide acceptées, elles côtoyaient à peu de choses près le même type de moribond. Certains ne pouvaient plus parler, d'autres, au contraire, monologuaient, heureux de pouvoir radoter à portée d'une oreille compatissante. Ces confessions finissaient par installer une atmosphère déprimante à laquelle il était difficile de résister. Une semaine s'écoula, chaque nouvelle journée étant l'exacte réplique de la précédente. Peggy avait l'impression d'être prisonnière d'une parenthèse temporelle. La nuit, elle rêvait de têtes disloquées dont elle devait emboîter les morceaux à la manière des pièces d'un puzzle. Le capitaine Flaherty, son premier patient, était le plus prolixe. Il avait développé une haine pathologique à l'égard de ceux qui l'avaient changé en monstre de foire, lui, l'ancien tombeur aux multiples conquêtes. Peggy devait feuilleter pendant des heures les albums photographiques dont il s'était entouré. Deux d'entre eux lui étaient entièrement consacrés. Ils regroupaient tous les clichés qu'on avait pris de lui depuis sa naissance jusqu'à son départ de l'aéronaval. Sur chaque photo, il paradait, le sourire impeccable et lumineux, sur le pont d'un porte-avions ou dans le cockpit d'un jet. Dans un autre album, il avait collé une profusion d'instantanés où figuraient les filles qu'il avait culbutées aux quatre coins du monde. Certaines de ces photos auraient été davantage à leur place dans un magazine pornographique. Flaherty ne cessait de harceler Peggy afin qu'elle exprimât son opinion sur ses conquêtes. N'était-elle pas toute sublime, digne d'un acteur hollywoodien? Il était si pathétique qu'elle prenait soin d'abonder dans son sens. À d'autres moments, il s'enhardissait et lui demandait si elle l'aurait trouvé à son goût et si elle aurait envisagé de coucher avec lui. Peggy n'avait pas le cœur de le contrarier et affirmait qu'elle aurait sauté dans son lit sans une hésitation. En réalité, elle avait toujours eu horreur des bellades style boy band ou Chippendale. Grâce à ses mensonges, une étrange complicité finit par s'établir entre eux. Se sentant en confiance, Flaherty ne tarda pas à s'épancher avec prolixité, passant en revue l'escroquerie dont il estimait avoir été victime. « On m'avait engagé pour piloter des vaisseaux à travers l'espace, haletait-il, mais on ne m'a jamais donné l'occasion de m'asseoir dans le cockpit d'une fusée. Je n'ai fait que traîner d'un laboratoire à l'autre pour subir des injections, des radiations, des greffes. Je me suis montré affreusement naïf. Ils n'avaient pas besoin de pilotes en réalité. Ils cherchaient des cobayes. Après m'avoir bourré de saloperies chimiques, ils m'ont enfermé dans un simulateur pour me soumettre à toutes sortes de préjudices physiques. Ils voulaient voir si j'étais capable de survivre aux blessures, à l'usure, aux radiations, au vieillissement accéléré. Ils ont même modifié mes gènes pour que je sois atteint de progéria. Tout ça pour rien. Pourquoi pour rien ? Insista Peggy en alerte. Parce qu'ils ont décidé de ne pas poursuivre dans cette voie. Trop d'inconvénients. Il fallait compter avec les résistances psychologiques des sujets. On a beau être prêt à se sacrifier, personne ne peut envisager sereinement de devenir un monstre. Alors ils ont prélevé notre sperme pour en modifier l'ADN. Leur nouvelle marotte, c'est d'engrosser de pauvres filles avec cette semence, afin qu'elles donnent naissance à des mutants. des gosses d'apparence normale, mais ayant hérité des pouvoirs de leur père monstrueux. Vous pigez ?
Je crois, oui.
Il y a de sacrés généticiens ici. À ce qu'on prétend, ils sont parvenus à réduire le temps de gestation à 2 mois. Ensuite, une fois le gosse venu au monde, il se développe beaucoup plus vite qu'un mioche ordinaire.
Un peu comme un animal, si vous voyez.
En l'espace d'un an, il est adulte, ou presque. Opérationnel. Autrement dit, rentable pour la suite du programme spatial. Mais ses filles, commença Peggy jouant la carte de la naïveté. Flaherty ricana de façon déplaisante. « Ne soyez pas cruche, siffla-t-il. C'est de vous qu'il s'agit. De vous et de vos copines. On vous a attiré ici, soi-disant, pour un boulot d'entraîneuse, mais c'est de la frime. Ils vous ont rétrogradé à la première incartade, n'est-ce pas ?
Oui, en effet, je...
C'était prévu. Le but de la manœuvre, c'est de vous promener de boulot dégueulasse en boulot de plus en plus dégueulasse. Jusqu'à ce que vous craquiez et que vous soyez prête à accepter n'importe quoi. Dans un mois, vous serez à point, au bord de la dépression nerveuse.
Alors, Ninimyama se pointera, la bouche en cœur, pour vous proposer une porte de sortie.
Laquelle ? Devenir mère porteuse. En réalité, ils vous insémineront avec le sperme modifié prélevé sur les pilotes de la première génération. Ma génération. Vous en aurez tellement marre de rafistoler des cadavres que vous direz oui, 3 fois oui. Feignant le désarroi, Peggy réfléchit à ce qu'elle venait d'apprendre. Enfin, une lueur s'allumait au bout du tunnel. Elle entrevoyait le moyen d'accéder au Saint des Saints. « Je n'invente rien, » insista le capitaine. « Ça se passera de cette manière. Vous avez été sélectionné dès votre arrivée à la station. » Ils vous ont choisi parce qu'à leurs yeux, vous avez les qualités d'une bonne reproductrice et que la gestation des fœtus modifiés n'est pas de tout repos. On murmure même que les pertes en mère porteuse s'élèvent à 30%. Le soir, elle rapporta à Poppy ce qu'elle avait appris au cours de la journée. « Ça recoupe à peu près ce qu'on m'a raconté, » confirma cette dernière. « Tous s'entendent pour dire que nous subissons une préparation psychologique. » Ils estiment que la moitié des infirmières se suicident au bout d'un mois. Les survivantes rejoignent le programme de procréation. Ils parlent également d'un mouvement révolutionnaire clandestin dont le but serait de faire exploser la station pour mettre fin à ces horreurs.
Tu y crois ?
Pourquoi pas ? J'ai l'impression que la moitié de la population est zinzin et que l'autre ne tardera pas à le devenir. Nous sommes tombés dans un véritable asile de dingue.
Yumiko, de son côté, avait établi un contact privilégié avec le moripon japonais qui se nommait Nakamura Ikitsu. Entre deux yaku, l'homme se laissait aller à d'intéressantes confidences, car, comme tous les agonisants à long terme parqués à l'étage, il n'avait plus rien à craindre des autorités contrôlant la station.
« La résistance s'organise, » répétait-il. Ceux d'entre nous qui peuvent encore se mouvoir travaillent à la fabrication d'une bombe qui fera exploser la coque du vaisseau. Croyant Yumiko dupe des comptes véhiculés par l'agence de communication régissant la station, il s'était empressé de la déniaiser en lui révélant que le pseudo-camp installé au cœur de la banquise était en réalité une station orbitale furtive indécelable depuis la Terre. Yumiko avait bien évidemment faim l'incrédulité.
Il est hors de question que cette horreur continue plus longtemps, radotait-il. Nous sommes bien décidés à y mettre fin. C'est pourquoi il faut que vous trouviez le moyen de vous échapper.
Comment cela ? Gémit la jeune femme. Quand on vous proposera de subir une insémination artificielle, ne refusez surtout pas, insista Nakamura. C'est votre seule chance d'accéder au centre névralgique du vaisseau. Une fois que vous serez installé à la maternité, ouvrez l'œil. Apprenez à vous orienter. Il existe des capsules d'évacuation, des canaux de sauvetage de l'espace, si vous préférez. Si vous réussissez à vous emparer de l'un d'eux, vous aurez une petite chance de regagner la Terre. Cela s'est déjà produit. Une jeune femme, Ornella Jones, a pris la poudre d'escampette de cette manière. Hélas, sa capsule a été prise en chasse par un missile tiré depuis la station alors qu'elle pénétrait dans l'atmosphère terrestre.
Ornella a réussi à s'éjecter quelques minutes avant l'impact. Mais elle a dû se résoudre à plonger dans le vide sans la moindre protection. Le frottement a vite eu raison de sa combinaison de cosmonaute et elle a fini le voyage nue, dans l'état que je vous laisse imaginer. Elle est morte ?
Non, elle n'a pas eu cette chance, car elle avait subi le traitement de renforcement destiné aux voyageurs du cosmos. Toutes les mères y sont soumises, afin de supporter la gestation difficile des fœtus trafiqués. Cette procédure renforce leur défense naturelle au point de les rendre très difficiles à tuer.
C'est ce que vous avez subi ?
Oui, j'ai été cobaye volontaire lorsque je travaillais à l'établissement de ce protocole. Voilà pourquoi j'ai tellement de mal à mourir aujourd'hui. Tout cela pour vous dire que vous avez une chance de repartir sur la Terre, une toute petite chance.
Je n'ai pas envie de finir en bouillie comme cette Ornella dont vous parlez.
On peut éviter cela. Les capsules sont équipées de leurres de contre-mesure pour dérouter les missiles. Je vous apprendrai à les utiliser. Ornella s'est affolée. Elle maîtrisait mal la technique. Elle a choisi de s'éjecter, c'était l'erreur à ne pas commettre.
Pourquoi tenez-vous tant à m'aider ?
Pour faire la nique aux gens qui commandent la station.
Ils ont pourri un projet merveilleux.
À cause d'eux, le voyage dans l'espace s'est bâti sur un charnier. Si vous refusez de vous échapper, ils se débarrasseront de vous au lendemain de l'accouchement parce que vous ne leur servirez plus à rien et que vous serez en très mauvais état. Sachez que 90% des femmes inséminées sur ce vaisseau meurent en mettant leur enfant au monde. Ornella était l'une des rares à avoir survécu. Si elle ne s'était pas enfuie, elle aurait fini son existence dans une soute, au recyclage des ordures, à patauger dans les déchets toxiques. C'est là qu'on exile les mères une fois qu'elles ont rempli leur office. Le traitement de renforcement leur permet de supporter plus longtemps que la moyenne les fuites radioactives en provenance du réacteur. Yumiko s'inclina. « Je vous remercie, » fit-elle. « Je pense que je vais suivre vos conseils. Votre enseignement me sera très utile.